D'abord, c'est moi, c'est nous qui vous remercions de nous avoir donné l'occasion de faire ce numéro. Et, alors c'est vrai que les rencontres ont été entre vous et moi au départ. Je trouve qu'il est rare d'être soutenu comme ça dans un travail par quelqu'un qui écoute, pousse dans un certain nombre de retranchements de manière à voir vers où les choses vont aller et qui en même temps accorde une liberté totale à celui à qui est confié, celle en l'occurrence, à qui est confié un numéro de faire comme il l'entend, de choisir les contributeurs et qui après est dans une approbation avec ouverte à au dialogue. Ce sont des conditions de travail qu'on aimerait avoir au quotidien. Et là, c'était pour nous tous un très bon moment. Ensuite, bon, un numéro de ce type se construit d'une manière beaucoup moins programmée et programmable que ce que l'on pourrait croire quand on voit le numéro fini. Donc, vous me permettrez, ce qui sera une manière pour moi de présenter aussi les contributeurs et la façon dont ce numéro a été articulé, non pas de vous infliger la genèse de l'ensemble de ce numéro, mais de vous dire un peu comment les choses se font. Parce que quand on prend un numéro de revue sur une thématique, un domaine, un champ comme est l'esthétique, on pourrait croire qu'il y a un plan préétabli qu'ensuite on suit et que chacun vient remplir une case. Donc chaque article serait une sorte de déroulement, déploiement par rapport à un objectif. En fait, les auteurs qui sont réunis dans cet ouvrage ont chacun travaillé à leur manière. Je les connaissais bien entendu tous. Ça me paraît un principe qui se situerait dans mes travaux entre Goethe et Kant. Il faut des affinités électives pour qu'on puisse travailler bien. Donc, je n'ai pris aucun risque. Je suis restée dans le régime de l'affinité élective et cette affinité élective me garantissait que quelque part il devait y avoir quelque chose de l'ordre d'un accord, ce qui m'a évidemment délivré du souci de vérifier ensuite que chaque article correspondait à ce que j'en attendais. Et d'ailleurs, je n'avais pas non plus une attente dont la conformation était déjà précise. J'avais de la confiance et je pense que, à l'image de la confiance que Laurent Gallois nous a faite, j'espère avoir été suffisamment confiante avec vous tous pour que la chose se déploie avec une sorte de, là aussi la métaphore est goethéenne, mais de temps en temps, pour que la forme vienne, il faut que elle se lève comme du pain. Alors le levain devait être là, mais il était en chacun, donc je n'ai rien exigé, je n'ai rien requis, et il n'y avait pas de ligne. Je ne tenais pas un programme commun, quelles que soient les résonances politiques par les temps qui courent, de ce type d'expression, et je n'avais aucune envie que les articles remplissent un programme commun. Donc, ça n'est pas comme ça qu'on a travaillé. Le groupe qui a des contributeurs est un groupe au sens où nous avons tous des positions qui se croisent assez bien autour de ce que peut être l'esthétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, quand Laurent Gallois m'a demandé quel titre je souhaitais donner à ce numéro, je n'avais jamais pensé qu'il fallait que je donne un titre, donc je dois avouer que j'étais relativement inquiète de trouver un titre et que j'ai choisi une solution de facilité qui était l'esthétique tout simplement. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire que l'esthétique soit simple, bien au contraire, mais que en fait, on peut aussi ne pas se poser de questions sur qu'est-ce que l'esthétique ? Donc c'est un numéro qui n'est pas définitionnel. Il s'en garde bien. La première raison est négative, c'est quand on commence par établir des définitions, on est obligatoirement sur une position défensive. Or, je n'avais aucune envie d'une position défensive parce que je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'esthétique ait à se défendre de quoi que ce soit, même si elle a subi des attaques réitérées et que son faire part de décès a été produit un certain nombre de fois. Il me semblait qu'elle elle vit très bien avec une certaine tranquillité quand on la pratique. On la pratique parce que l'esthétique est une philosophie appliquée. Si je devais recourir à une définition, c'est celle-là, c'est-à-dire que l'esthétique est un régime de la pensée philosophique qui se déploie par rapport à des objets qui ne sont pas sa production, mais qui sont des productions par rapport auxquelles elle trouve à penser. Et elle trouve à penser et elle contribue, je l'espère, à rendre sensible que ces objets pensent eux aussi et sont une pensée sensible. Donc les œuvres d'art, puisque l'esthétique est profondément liée à l'artistique, que les œuvres d'art sont quelque chose de l'ordre d'une proposition théorique sensible. Et que elle déploie une pensée que l'esthétique est capable de voir, d'écouter, de lire et de sentir. Donc c'était ça le fondement qui permettait ensuite à chacun d'aller vers là où il voulait aller. Donc voilà ce qu'on a ce sur quoi on était d'accord sans même le formuler, parce que ça fait un moment que nous travaillons ensemble à des degrés divers, mais que nous avons l'habitude dans des séminaires, dans des colloques, de suffisamment voir l'autre travailler pour savoir que les résonances et consonances seront plus importantes qu'un éventuel différent. Alors à partir de là, et vous verrez que les deux pages que j'ai écrites après Laurent Gallois pour présenter le numéro sont évidemment deux pages qu'on écrit dans l'après-coup, au moment où on constate que l'unité existe. L'après-coup est important parce que c'est au moment où on lit l'ensemble qu'on voit que tout finalement s'enchaîne assez bien. D'ailleurs, quand nous avons dû mettre de l'ordre dans les articles et décider par quoi nous commencions et par quoi nous finissions, on est tombé d'accord tout de suite. Tout était dans une harmonie post-établie qui était très satisfaisante. Ça nous a évité d'ailleurs du travail, puisque autrement, j'imagine que c'est assez compliqué de décider par quoi on commence et par quoi on finit. Donc là, on n'avait aucun problème. Donc, ce numéro est composé de 5 articles. Alors nous sommes 3 en tribune, mais les 2 autres auteurs sont dans la salle et ils auront évidemment la parole à un moment donné, parce qu'il est inutile de se faire le porte-voix de quelqu'un qui est là. Je pense que Giuseppe Di Liberti et Mildred Galland, Simkoviak expliqueront infiniment mieux les choses. Mon propre article est centré, part d'une analyse de tableau et revient à ce tableau. Donc, Jamel Tata, qui est un très grand peintre, qui est professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, a eu la gentillesse de venir aussi. J'espère que la leçon de philosophie qui va lui être infligée ne sera pas trop insupportable, n'est-ce pas, Jamel ? Mais, en tout cas, l'œuvre que vous voyez et cette œuvre à partir de laquelle j'ai moi-même fait mon article, je vous en montrerai quelques-unes que Jamel a choisies. Et je suis extrêmement contente que tu sois là, Jamel, parce que l'esthétique travaille avec des artistes et des artistes vivants, pas simplement un patrimoine artistique. C'est pas tellement la notion de l'art contemporain qui compte que le rapport avec un atelier, une salle de répétition, un studio d'architecte, etc. Il est impensable d'imaginer qu'on peut tenir des discours sur l'art en général, qui n'existe pas et que personne n'a jamais rencontré d'ailleurs. Il est aussi impensable de tenir des discours sur des œuvres d'art ou sur l'œuvre d'art avec un O majuscule. Seul Martin Heidegger s'autorise le plaisir de parler des souliers de Van Gogh alors qu'on ne sait pas de quel tableau il s'agit, et que d'ailleurs il n'y a aucun tableau qui s'appelle les souliers de Van Gogh. Aller à l'atelier quand il s'agit de peinture, regarder comment la musique se fait et essayer d'entendre quelque chose, aller au cinéma et comprendre un peu de technique et discuter avec quelqu'un qui fabrique un film, c'est très important. L'esthétique est liée à l'artiste et à son activité artistique. Et c'est ça qui est essentiel pour qu'on comprenne quelque chose, parce que l'œuvre d'art que nous voyons finie, dont la question de l'achèvement est toujours un problème fondamental, est une production vivante par rapport à laquelle nous devons, nous, aller avec des pas de colombe, comme dit encore Kant, pour s'en approcher et être capable d'écouter, de voir ce qu'elle est en train de dire. Donc ce rapport-là est fondamental. Est-ce que c'est une autre définition de l'esthétique que philosophie appliquée? Ça pourrait bien l'être. Et il faut peut-être l'entendre dans ce sens-là. Donc, chaque contributeur a écrit sur ce qu'il sait le mieux et ce qui le préoccupait dans l'instant où j'avais demandé l'article le plus. On a à la fin une symphonie assez concertante de mon point de vue. Ça reste de la musique de chambre, ça n'est jamais qu'un quintet, mais c'est déjà beaucoup. Donc le premier qui ouvre le numéro, c'est Jacques-Olivier Bégaud. Je vais te passer la parole, je pense, de manière à ce que tu expliques, et puis éventuellement, si j'ai à réagir à ce que tu dis, je le ferai sans que ça te dérange trop. Et ensuite, je vais passer la parole, en fait, dans l'ordre du numéro à chacun, ce qui veut dire que je conclurai, mais je serai la dernière. Voilà.